J'écoute sur mon ordinateur, j'écoute en streaming, j'écoute en vinyle, j'écoute. Mais mon plus grand plaisir, c'est quand même le vinyle. Parce que d'abord, il y a un rapport, un vrai contact, un vrai lien avec l'objet. Donc ça me plaît, vraiment. C'est comme une petite œuvre d'art. Et puis, enfin, j'ai constaté avec joie, d'ailleurs, qu'il y a plein de jeunes gens, enfin, les petits, la nouvelle génération, pour qui tout ce qui est dématérialisé, c'est complètement obsolète et ils ont envie de revenir à quelque chose d'un peu plus physique. Et c'est génial qu'ils puissent avoir l'expérience de ça, quoi.
EMI pour la maison de disques.
Harvest, plus exactement. Et c'est le premier album solo de Syd Barrett. Star above you, crystal blue.
Well, sa chambre,
c'est exactement c'est l'endroit dans lequel je me suis retrouvé quand quand Dougie Field m'a invité à venir dans l'appartement, et ça n'a pas changé, ça c'est pareil, enfin je veux dire la structure de la chambre n'a pas changé du tout, le sol n'est plus le même, il a été recouvert en fait. Et il devait y avoir des travaux récemment, et j'avais demandé à Dougie s'il y avait des travaux, je voulais qu'il m'appelle pour voir le parquet d'origine qui est peint par Barrett en orange et bleu pour la séance, justement. Voilà.
Et lui, il est, comment dire, accroupi, on va dire.
Oui, il est accroupi.
Avec un bouquet un peu fané à côté de lui.
Oui. Mais c'est une photo un petit peu, enfin avec un grain, beaucoup de grains, il ne devait pas y avoir beaucoup de lumière. C'est pas une excellente photo, mais c'est une photo iconique justement pour son naturel, sa composition, et à la fois, il n'y a aucune sophistication, mais ça fonctionne comme une image éternelle en fait.
Et au dos, on est quelque chose d'un peu surréaliste.
On voit, il y a une fille nue sur un tabouret. Il s'appelait Iggy l'Esquimau.
Et lui est au premier plan, regardant l'appareil de photo, ou plus ou moins.
Avec les cheveux qui couvrent son visage. Voilà. Et c'était un endroit fantasmé dans lequel je me suis retrouvé. Et ça fait partie des moments, des grands, grands moments de ma vie de musicien et de ma vie tout court.
Cette passion-là, donc, est infusée dans sa propre musique à lui. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître des choses. Et puis surtout, voilà, il fait de la musique parce qu'il aime la musique, quoi. Il fait pas de la musique parce que c'est son métier ou parce que ça rapporte de l'argent ou parce qu'il a envie d'être connu ou quoi que ce soit. Il fait vraiment de la musique parce qu'il aime ça.
Les médias francophones publics vous proposent...
Globalement, ça va. Enfin, je veux dire, je ne suis pas de...
Dao, fan de pop.
Je suis assez...
Une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer.
Spontané, je crois, je dis pas mal de choses. Donc voilà. Et puis, bon, il y a des choses qu'on lâche parfois. C'est pour ça que j'aime bien la radio, et en fait, j'aime bien les choses en live, et j'aime bien la radio. Parce que même si on peut remonter en radio, quand on dit des choses, il y a le ton. Et avec le ton, on a le vrai sens des choses.
Fan de pop, sixième épisode, avec focus sur un album très important dans sa discographie. Entre 83 et 92, Dao enfile les tubes. Il est au sommet de sa popularité. Milieu des années 90, changement d'angle, d'axe, virage aérien et électronique pour rester en dehors des clous avec Eden, un nouvel album, Jungle et Bossa Nova, qui sera reçu assez froidement en 96. Et pourtant, Eden devient disque d'or, tout comme La Note et La Notée, pour Nos Vies Martiennes, Corps et Armes, Révolution et Blitz. Même Mythomane a eu droit à la version lingot 10 ans après sa sortie. Nous sommes dans le salon d'Étienne Dao, à Montmartre, dans la maison où Buffalo Bill, le chasseur de bisons, a séjourné au début du XXe siècle. Allez Étienne, dégaine tes disques d'or.
Est-ce qu'on se dirige de ce côté-ci? Alors là, je vous laisse choisir, parce qu'il y a du choix. Là, c'est vraiment tout ce qui vous concerne par rapport à votre carrière, disque d'or, disque de platine.
Oui, ce sont tous les disques d'or. En fait, tout a commencé avec ce disque d'or pour le 45 tours avec Danny, comme un boomerang. Et puis j'ai reçu ce disque d'or un jour, et puis j'étais avec un ami ici, et il me dit « Ah, c'est ton premier disque d'or ?» Alors j'ai dit « Non, mais j'en ai eu quelques-uns, mais ils sont en bas, parce que je ne veux pas qu'ils soient amusés ici, je les ai mis en bas, ils sont stockés dans un placard. » Il me dit « Tu mets tes disques d'or dans un placard, mais c'est la honte, et je peux les voir ?» Et donc on est descendu, je les lui ai montrés. Il m'a dit, mais faut que tu les mettes là. Je dis, mais non, mais moi, je peux pas m'en occuper de ça. Il m'a dit, je m'en occupe. Et il les a posés. Voilà. Et ils sont toujours là. Donc certains sont pas ouverts. Voilà. C'est un mélange un peu. Ils sont un peu dans le désordre. Ils sont posés. Voilà. Mais, je suis content maintenant qu'ils soient là. Parce que c'est ma vie. Et puis en plus, ça fait une jolie lumière. C'est vrai. Le soir, ça reflète une jolie lumière. C'est beau, ça me fait plaisir. Alors il y en a qui me font plus plaisir que d'autres. Quand ça a été un peu plus compliqué, voilà, le disque d'or d'Éden.
J'allais dire, mais il n'occupe pas la place idéale, il est un peu derrière quand même.
On peut le changer si vous voulez. Vous voulez
que je avec plaisir.
Voilà.
Voilà. Surtout qu'il est un peu différent des autres, il est très coloré.
Oui, il est très coloré, oui.
Elle est entrée en transe, près de l'arbre de la connaissance. Je ne la connaissais ni d'Adam, ni d'Ève. Depuis je porte le chapeau, un cortège de péchés capitaux. Moi qui suis doux comme l'agneau, c'est bête. Un pauvre petit animal, un anneau de lune banale. Ignorant tout du bien et du mal, je le jure. Un serpent sans importance, à l'héros un poil compulsif. Pas de raison pour être agressif, tout de même. Je cherche mâle ou femelle, et dehors les chameaux, et dehors les brêles, qui en croquent pour ma pomme. Je hais votre peine, je voudrais qu'on m'aime. Possiblement paresseux, envieux, luxurieux, gourmand et orgueilleux, probable. Avare et coléreux, Altebosorn est imbécile. Vous m'avez jugé peut-être un peu vite. Faites donc abstraction de ma mauvaise réputation et de mes exigences primitives. Je cherche mâle ou femelle. Et dehors les brêles qui en croquent pour ma pomme. Je vis l'enfer d'être en deux mondes et j'ai tant de choses à m'offrir. Je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'aime.
Dao.
Aujourd'hui, l'enfant du paradis.
1996, Eden.
Alors, c'est un album qui a été reçu de manière très contrastée. Ce qui m'a beaucoup surpris, parce qu'en fait, avec Pop Satori, j'avais fait exactement la même chose. Et avec Arnold Turboust, et à Londres, et avec la même envie en tête d'innover, d'inventer quelque chose. Et donc, la musique électronique, à l'époque, en France, c'était vraiment une musique pour homosexuels. C'était vraiment une musique de la marge, véritablement. Il me paraissait évident que l'électropop que je faisais dans les années 80 et l'électronique chanson de 1996, c'était le même lien, c'était vraiment la même chose, c'était le même état d'esprit.
Ça correspond effectivement à une époque.
Jean-Éric Perrin, écrivain.
C'est un moment où l'électro commence à envahir un peu, enfin à colorer de façon plus évidente la musique populaire, et donc lui forcément, d'autant plus c'est aussi un noctambule, c'est aussi un amateur de club, c'est un amateur de danse, voilà, il voit pas ça de sa tour d'ivoire, c'est-à-dire qu'il va au charbon dans le truc, quoi, il va dans les clubs, il a une vraie connaissance de ça, et donc il a forcément voulu utiliser et convertir sa musique à cette tendance-là à un moment donné, quoi.
C'est l'album qui révèle toutes les facettes d'Étienne.
Benoît Cachin, écrivain.
Un album concept avec une histoire en partant de la Genèse de la Bible, d'où le titre Éden. Pour moi, c'est l'album qui le ramène à l'enfance. D'ailleurs, la pochette est tout à fait éloquente. Il est face au public et derrière, il y a la mer. Et la mer, c'est forcément l'Algérie, c'est forcément son enfance. Et là, il retourne aux sources. C'est son album le plus profond, le plus intéressant à tous les niveaux. Vraiment, c'est la grande réussite. Malheureusement, ça sera, à l'époque de sa sortie, un échec.
Je pense que les gens n'étaient pas prêts à recevoir un disque comme ça à ce moment-là. Donc, c'était un moment un petit peu compliqué. La maison de disque est un peu paniquée. Moi, j'étais très fier de ce disque. Donc, à partir du moment où je suis fier d'un disque artistiquement, je me fous de savoir s'il marche ou pas. Je préfère qu'il marche parce que le succès, c'est toujours collectif. C'est le succès de tous les gens qui ont travaillé dans ce disque. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans ce disque. C'était monumental à faire. On a passé presque un an et demi à faire ce disque.
C'est un cheminement assez long parce que, en fait, il y en a pour un an. On reste un an là-bas. Parce que Pop Satori, on était resté deux mois. Là, on reste un an en Angleterre.
Arnold Turboust, coproducteur d'Eden.
Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire en fait essayer d'appliquer à nos mélodies, à nos idées de chansons, l'ambiance londonienne, en fait, ce qui s'y passe, les courants, essayer de s'en imprégner, c'est-à-dire en fait sortir, écouter des musiques, et puis les choses se sont faites petit à petit, c'est très long, il est très très long à faire cet album.
Mais il est souvent cité comme peut-être l'un des meilleurs albums de la discographie d'Étienne Dao.
Ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que ça n'a pas été le cas à la sortie. Ça a été bien bien difficile et complètement incompris.
Sur cet album, donc toujours Eden, il y a un titre avec Astrud Gilberto.
Oui.
Qui n'a pas été très facile à enregistrer.
Si... Je crois qu'elle s'en est pris à Arnold. Arnold a eu une attitude qui l'a fermée, en fait. Et, je veux dire, il y a eu des maladresses qui l'ont heurté. Voilà.
On était tellement contents qu'elle vienne chanter, c'était formidable. Enfin, moi, voilà, Astrud Gilberto, la bossa nova, voilà, c'est énorme pour moi. Et donc, elle vient en studio, elle est avec son fils. Et Étienne commence à s'occuper, en fait, de la faire chanter, c'est-à-dire en fait de gérer les voix, voilà, Astrud is good. Et puis à un moment donné, il se retourne vers moi, puis il me dit genre c'est compliqué, tu veux pas regarder, je vais faire un tour. Je dis oui, si, t'inquiète pas, parce que on avait l'impression qu'elle m'appréciait. Bon, je dis ok. Et puis je commence, je dis oh, c'est super, j'adore, tout ça. Bon, et puis à un moment donné, quand même, elle chantait toujours un peu, enfin pour moi, un petit peu en décalage. Et là, je me suis permis de lui dire. Qu'elle était décalée, que ça serait mieux si elle chantait exactement pareil. Mais vraiment, en y mettant les... Mais que n'avais-je dit ? Je lui avais dit qu'elle n'était pas calée. Et j'aurais jamais dû dire ça, évidemment. J'ai manqué un peu de feeling. Et là, elle a commencé à pousser une gueulante. Un truc pas possible. Je comprenais pas, mais je sentais que c'était après moi. Enfin voilà, je me suis fait engueuler. Elle m'a expliqué que, elle a commencé à me dire que c'était pas elle. Elle avait raison qu'on allait expliquer ce qu'était le rythme, puisqu'elle avait inventé la bossa nova. Enfin, elle a fait tout un truc énorme. Et elle a exigé que je sorte du studio. Je suis sorti du studio. Etienne est revenu. Et voilà, donc moi j'ai été viré, quoi. Alors que c'était ma chanson aussi, hein. C'était, voilà. Et alors que ça se passait très très bien. J'arrivais bien, vous voyez, j'avançais, c'était content, c'était bien et tout ça. Puis à un moment donné, me sentant peut-être un petit peu trop en confiance, j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire.
Sur les bords de Seine, le septième jour de la semaine, avec toi, j'aime bien traîner, traîner. À Paris plage, Paris paresseuse, les soirs d'été sont chauds. Paris Eldorado sur l'eau.
Brésilien.
Dao, fan de pop.
Quand j'ai commencé à chanter, c'était ma référence vocale, c'est les chanteurs brésiliens et Chet Baker. C'est vraiment les chanteurs qui m'ont influencé, qui m'ont inspiré véritablement. Donc le fait de chanter avec Astrud a été un bon moment et c'est une belle chanson. Et ça reste pour moi un grand souvenir. Et
maintenant je suis content parce que c'est vrai que tout le monde me parle de cet album comme un de ses albums les plus aboutis, les un album qui compte. Et c'est, je pense que c'est un album reflet de la musique de cette époque-là, c'est-à-dire en fait ces mélodies françaises un peu transposées, un peu avec la façon de faire des Anglais, quoi.
Et alors là, c'est drôle parce que, comme quoi, voilà, regardez, ben voilà, un manager qui n'a rien compris Eden, Patrick Perron, et qui l'avoue, et Etienne était très content de son Eden, il est toujours content de son Eden, il a bien raison de l'être. Et alors, c'est très drôle parce que les tournées après, ils voulaient toujours mettre des titres d'Eden, et puis moi, je disais, tu es sûr, tu veux mettre ce titre? Moi, j'étais toujours prêt à les enlever de la liste. Donc, c'est assez drôle parce qu'il savait très bien que pour moi, c'était un peu trop électro, trop branché. Donc cet Eden a été une chose drôle entre nous, ça, voilà. Mais c'est un album important, et ça, Etienne le savait, moi pas du tout. Comme quoi, voilà, c'est encore, vous voyez, la volonté d'Etienne, il sait, clac, il est fier de son travail, tout ça, c'est ce qu'il voulait faire, même si ça n'a pas rencontré à l'époque le public, puisqu'on sortait de Paris ailleurs, il ne s'est pas dit, c'est une... Non. Voilà, c'est cet album que j'aime, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'aime, c'est ce son qu'il a toujours aimé, de toute façon, c'est vrai, avec Arnold, au début, le coup de l'électro, tout ça, ça lui a toujours parlé, Étienne, dans les remixes, des machins, voilà. Voilà un exemple de la ténacité et de la vision que vous devez vraiment avoir.
Et moi, j'en suis très fier. Et il y a des satisfactions, parce qu'avec le temps, le public modifie son regard sur les choses. Et il y a eu un espèce de sondage qui a été fait auprès de gens qui aiment mon travail, enfin sur les réseaux sociaux. Et on leur a demandé quel était leur album préféré. Et massivement, ils ont répondu Eden. Ce qui était une surprise et une joie pour moi. C'est toujours agréable de sentir qu'on a été juste par rapport à soi et que finalement, on finit par être suivi. Voilà.
Pour la première fois,
Benoît Cachin, écrivain.
C'est une pochette où il est de face, gros plan. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas d'artifice. Il regarde droit devant lui, ce qui est très rare. En tout cas, les précédentes pochettes, c'était compliqué parce que soit il regardait, mais il était masqué, comme dans Paris Ailleurs, où il y a une espèce de filtre comme ça, on le reconnaît pas bien. Toutes les autres pochettes, soit c'est un dessin, soit il regarde pas l'objectif, il regarde de côté. Ou alors c'est stylisé façon Pierre et Gilles comme l'a noté. Là, pour la première fois avec Eden, il est face à lui-même.
Oui, un plan très serré pour Eden.
Nathalie Noënec.
Avec
conseillère en images.
Cette couleur qui explose, peut-être que c'est pour lui le disque aussi d'un certain renouveau. Rien n'est au hasard, c'est-à-dire que le contenu et le contenant sont souvent en relation. Je crois qu'Eden, c'était... la lumière aussi pour lui.
C'est mon album préféré.
Richard Dumas, photographe.
Je pense que c'est la naissance du Étienne. Étienne a peu changé, mais il y a un Étienne moderne un peu. Un Étienne adulte, entre guillemets.
En fait, c'est le moment où j'ai recommencé à me reconnecter avec mon passé, et avec l'Algérie, avec toutes les choses qui m'avaient marqué. Il y avait d'ailleurs dans cet album un jeu qui était un des premiers jeux qu'on pouvait mettre dans un disque, on pouvait jouer à être Étienne.
Bonjour Étienne.
Un jeune Étienne dans un parcours initiatique.
Dis, tu me donnes ton ours en peluche ? J'en ai assez de jouer à la balle.
Le jeu se passait au Cap Falcon avec mes sœurs, mes tantes, enfin toute ma famille.
Le phare est un endroit dangereux, Étienne. Ne va pas traîner là-bas.
C'était une manière de me montrer véritablement et de dire... beaucoup de choses de mon intimité et de ma personnalité, de mon parcours, de mon enfance. C'était vraiment une façon d'être très honnête, de dire les choses, mais d'une manière artistique.
Mais avant, tu dois apprendre. Apprendre que le monde est fait de plaisir et d'interdits. Et que pour parvenir à l'âge adulte, il faut s'affranchir de ses conflits. Et découvrir sa véritable sensibilité.
C'était un album... qui m'a permis d'avoir un futur, véritablement. Je pense que si j'avais continué dans la voie de Paris Ailleurs et dans le mode de vie et de système dans lequel j'étais, je serais mort aujourd'hui, ça c'est clair. Alors que là, j'ai eu un futur, j'ai commencé à me réaliser encore mieux musicalement, mieux dans ma vie personnelle. J'ai décidé d'être un peu plus musicien et d'être un peu moins exposé. Médiatiquement. Et malgré tout, ça n'a pas été un bémol, parce que tous les albums d'Apron continuent à marcher, les gens sont venus me voir en concert, mais ça a été différent. Voilà, j'ai envisagé mon parcours d'une manière qui me convenait mieux, voilà, qui convenait mieux à la personne que je suis.
À la tienne, à la nôtre santé, à l'air embrasé. Ça ressemble à l'enfer, l'enfer. Et sur la terre, les cœurs serrés, les yeux dilatés. Tu vis, mon amour, en enfer. Un enfer couleur chair. Des anges doux et pervers t'incitent à t'étendre par terre. Le ciel, ne peut-il attendre l'hiver? Quatre décembre, beau et vide, douceur du sang, extra lucide, ces merveilles d'enfer enfin. Avant que la chance ne nous lâche, frangis nos cœurs bien tendres, pourras-tu entendre les fados étranges des amis perdus qu'on ne reverra plus. Fiévreuse dans ta jupe orange, tu m'enseignes en échange la grande harmonie. Unis pour la vie, nous allons mourir pour renaître, mourir. Décembre, beau et vide, petite sœur de sang, aux yeux limpides, s'écrit l'enfer, enfin.
La chanson « Boulevard des Capucines » sur l'album « L'Invitation » en 2007 est inspirée de la lettre d'un père à son fils, d'Étienne Dao Senior à Étienne Dao Junior. Son père est kabyle, il est militaire, c'est un vrai Oranais. Il aime brûler la chandelle par les deux bouts. Pendant la guerre d'Algérie, il disparaît, laissant derrière lui sa femme Lucie, ses deux filles et son fils. Il porte le même nom et le même prénom que son père, d'où l'idée du Junior.
Alors Étienne Dao Junior, C'est le jeune homme qui a commencé à chanter et qui s'est appelé Junior parce que mon père s'appelle aussi Étienne, s'appelait aussi Étienne. Et je serais bien incapable de savoir pourquoi je l'ai fait à l'époque, mais à part le fait que mon père s'appelle Étienne et que soit c'est une dissociation, soit c'est une coquetterie, je ne pourrais pas vous répondre, je ne m'en souviens pas, je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il que Élie Médéros et Jacques Nau, quand on a commencé à travailler ensemble, au moment où il a été question de la pochette, elle m'a dit d'une manière extrêmement sérieuse, tu ne peux pas t'appeler Junior, c'est juste pas possible.
Peut-être qu'inconsciemment, j'avais trop envie que...
Élie Médéros.
Qu'Étienne puisse tenir par lui-même et pas qu'il se détermine par rapport à un père qui n'était pas là en plus. Ça, c'est disons que c'est une sorte d'analyse. Mais à l'époque, c'était juste, j'aimais pas ça. Je n'analysais pas, ça me plaisait pas.
Tout le monde disait que Junior derrière Étienne Dao, c'était ridicule, mais lui, il les tenait.
Sylvie Coma, amie d'Étienne Dao.
Et je pense que ça, c'était pour régler quelque chose par rapport à son père, absent, qui les avait quittés quand il avait 5 ans, et sans doute sur lequel il devait fantasmer. Et c'était une façon pour lui, sans doute, de se réinscrire dans cette filiation paternelle, d'accrocher ce Junior derrière ce Dao. Et puis finalement, il l'a viré. Sans doute a-t-il grandi suffisamment pour virer le Junior, quoi. Mais c'était le premier Étienne, on va dire.
«
Jean-Éric Perrin, comment est-ce que vous expliquez qu'Étienne Dao, si discret, publie un jour un titre qui s'appelle Boulevard des Capucines, où il raconte l'histoire de son père, finalement?
Alors, c'est quelque chose dont il ne parlait pas. Moi qui, effectivement, quand je l'ai connu, donc avant qu'il soit Étienne Dao chanteur, j'ai habité avec lui, j'ai passé vraiment beaucoup de temps avec lui, et c'est pas quelqu'un qui parlait de son passé. C'est, en fait, ce passé douloureux, c'est à la fois la guerre d'Algérie, etc. Enfin, ce qu'il a raconté depuis dans des interviews, c'est effectivement cette confrontation qu'il a eue enfant avec la guerre, avec des bombes, enfin voilà, avec la mort, avec toutes ces choses-là qui sont quand même très violentes au sens propre du terme. C'est quelque chose dont il ne s'ouvrait jamais.
À l'époque, on ne posait pas de questions, il n'y avait pas vraiment de bio. Je me souviens que la première bio a été faite quand j'ai signé chez Virgin, ma première maison de disques, par une attachée de presse qui n'avait aucune idée de qui j'étais, en fait. Je crois qu'elle avait même marqué que j'étais prof d'anglais, un truc comme ça. Et comme j'avais pas le téléphone, elle m'avait pas joint, donc c'est ce qui a circulé pendant longtemps. Et elle disait que j'étais né à Rennes, par exemple. Et j'avais pas envie de parler de toutes ces choses-là. C'était compliqué pour moi d'en parler. J'avais pas envie de montrer cet aspect-là de moi. J'avais envie de commencer une nouvelle vie avec des gens pour lesquels j'étais quelqu'un de neuf. J'avais pas du tout envie de communiquer ces informations-là sur moi. Pas du tout.
En 1986, vous êtes à l'Olympia pour la première fois et votre père débarque à l'improviste.
Oui. C'était assez incongru parce qu'en fait, je ne l'attendais pas et il s'est présenté comme étant mon père à l'entrée avec sa nouvelle famille qu'on ne connaissait pas, des nouveaux enfants, une nouvelle femme. Il a dit « Bonjour, je suis son père, je ferai des places ». Et ma mère venait me voir tous les soirs, donc je savais qu'ils allaient se rencontrer, qu'ils allaient se voir. Ils ont été installés en face l'un de l'autre, comme ça. Et donc, ils pouvaient se voir. Je me souviens que c'était le dernier jour de l'Olympia. Ça avait été un Olympia que je vais partager avec Ellie Medeiros. Elle, elle cartonnait avec Toi mon toit. Moi, je cartonnais avec Épaule Tatou, avec cet album qui s'appelait Pop Satori. C'était vraiment un succès phénoménal, quoi. C'était dingue. Et de vivre la dernière soirée de fête avec quelque chose que le passé qui revient comme ça, comme un boomerang, c'était difficile pour moi, c'était très compliqué pour moi. C'est une de mes sœurs qui est venue me le dire, en fait, et c'est une erreur, elle aurait jamais dû me le dire, parce que vraiment, ça, il faut jamais dire des choses à un artiste avant qu'il monte sur scène, ça faut le savoir. J'avais trouvé ça très très compliqué à vivre, en fait. Et ensuite, il est venu me voir dans les loges, et j'ai refusé qu'il rentre dans les loges. Et j'ai eu une culpabilité par rapport à ça. Après, forcément, c'est quand même mon père. Mais j'étais dans un moment où j'en voulais toujours beaucoup. J'avais pas la maturité de prendre le recul et de me dire, bon voilà, c'était un jeune homme. Il a fait ce qu'il a pu comme il a pu avec ce qu'il était à l'époque.
C'est vraiment fondateur dans l'œuvre d'Étienne Dao.
Benoît Cachin. Écrivain.
C'est le départ de ce père qui laisse cette femme avec ses trois enfants seule à Oran au pire moment de l'histoire de l'Algérie. C'est-à-dire après 62, c'est terrible pour les Français.
Et d'ailleurs, à la limite, il a bien fait parce que je pense qu'on se fait des choses qui nous heurtent, hein, ou qui nous frustrent. Et je pense que je n'aurais pas fait cette carrière ou je serais pas devenu la personne que je suis s'il n'était pas parti. Donc, d'une certaine manière, il y avait vraiment une très grande résilience de ma part. Je le remercie à la limite d'être parti.
Il a attendu très longtemps pour raconter cette histoire liée à son père, donc qui avait abandonné sa famille. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, il a fallu que ça sorte, quoi.
Je me souviens, j'étais à Ibiza et ma sœur Fanfan m'avait remis du courrier que je n'avais jamais lu, que mon père avait envoyé. Et j'ai trouvé cette lettre. Et donc, tout d'un coup, j'étais à même de pardonner. J'avais la maturité de comprendre son parcours de jeune homme, ce qu'il était et que je l'accepte. Parce que voilà, personne n'est exemplaire et qu'on se démerde avec ce qu'on est, ce qu'on a appris. Et à ce moment-là, j'étais capable de lui pardonner Et donc, je me suis substitué à lui pour écrire cette chanson. C'est quand même une gymnastique très bizarre. Mais j'ai écrit cette chanson et je me souviens, tout d'un coup, il y a eu une pluie torrentielle. Quand je dis une pluie torrentielle, c'est un déluge qui s'abat sur la terrasse de la maison à laquelle j'étais, sur la mer. Et avec un soleil fou, quoi. Et j'ai ressenti une libération énorme en me disant, je suis tiré d'affaire. Véritablement, j'ai senti, tout d'un coup, j'étais passé à autre chose, en fait. J'étais passé à autre chose pour tout. J'étais passé au-delà de cette histoire qui, pour moi, était finie. Et puis, j'avais réparé ma relation à mon enfance, à mon père. Et tout cela était bien en ordre, bien à sa place. Et ça a été vraiment un putain de moment.
Boulevard des Capucines, ton nom qui tout là-haut scintille est le même que le mien. C'est l'Olympia qui célèbre ton étoile qui là-haut s'élève et je vis ton succès de loin. Sur scène tu es le centre, la foule aimante vacille. J'observe lorsque tu chantes que brillent les yeux des filles. Je n'approcherai pas les loges où on te couvre d'amitié et d'éloges, car la pudeur me le défend. De loin tu sembles fort et grave, plus que les garçons de ton âge, comme lorsque tu étais enfant. Je te guette et l'appréhension me vide. Tous ces regrets douloureux me rongent comme l'acide. Je te demande par cette lettre, mon garçon, de m'accorder ton pardon. Quelle connerie, ma jeunesse, mon silence, quelle erreur, quelle perte de temps. Si je n'ai pas su te dire à temps que je pensais à toi tout le temps, mon guerrier, mon roi, mon petit prince. Épris de femmes et de vies légères, j'ai tant aimé, je suis sincère, l'étreinte de la liberté. Ni mari, ni père et volage, courant d'air de passage, sauras-tu me regarder? Mais tu ignores mes signes, toi mon cruel funambule. Ces lignes fracassées et somnambules. Je te demande par cette lettre, mon garçon, de m'accorder ton pardon. Tu sais quelle atrocité cette guerre, mon départ, quelle erreur, quelle perte de temps. Si je n'ai pas su te dire à temps que tu m'as manqué tout le temps, mon guerrier, mon roi, mon petit prince. Pardon.
un autre sur son père.
Jane Birkin.
Que j'adore sur ce même disque d'ailleurs.
Boulevard des Capucines.
Oui, oui, oui. Qui est d'une pudeur et d'une très grande mélancolie parce que il donne le beau rôle à son père. Il donne le rôle de quelqu'un qui est trop timide, trop, qui n'ose pas, qui aurait aimé avoir le courage de l'approcher. Et ce rôle qu'il donne à son père est sidérante de gentillesse finalement pour un garçon si blessé.
C'est bas les masques, quoi.
Dominique A.
C'est une chanson qui est très forte sur le rapport à son père, sur le rapport aussi à la notoriété, sur l'image publique. Je comprends qu'elle lui pose problème. Il y a un côté très épidermique dans cette chanson et elle colore l'album. C'est-à-dire, ça fait partie des chansons qui font un peu tache d'huile sur un disque. Et elle est à peu près au milieu du disque, si je me souviens bien. Je crois qu'elle est en 6.
Ah, vous connaissez vraiment bien, vous êtes spécialiste, là.
Pour ce genre de choses, j'ai bonne mémoire.
Alors, j'ai fait écouter ça à Pierre Caron, qui était mon manager à l'époque. Et je lui ai dit, écoute, j'ai écrit cette chanson, alors je ne sais pas quoi en faire, je n'ai pas très envie de la publier. Et il m'a dit, écoute, je suis très ému par cette chanson, vraiment, je pense que ce serait génial que tu la mettes sur le disque. Et donc, j'ai suivi son conseil, je l'ai mise dans ce disque. Et là, tout d'un coup, je commence la promo et les journalistes me disent « Donc, quel est l'artiste que vous allez voir sur scène à l'Olympia et qui vous rappelle vos débuts ?» Et au bout de 3 ou 4 journalistes, je me dis « C'est pas possible, je peux pas leur laisser raconter n'importe quoi. » Et donc, je l'ai raconté à un journaliste tout d'un coup, parce que c'était une interview un peu longue, qui avait 2 heures et qu'on peut pas être sous contrôle. Moi, je suis pas une bécane. Hein. Et donc, je lui ai raconté. Et alors là, c'était le pied dans la porte. C'était le pied dans la porte et là, ça n'a plus arrêté. Et je l'ai vraiment regretté. Parce que les gens n'ont pas compris, ils l'ont pas perçu comme une chanson de pardon et de légèreté. Du coup, et de joie, la joie d'avoir métamorphosé quelque chose. Vous comprenez? Ils l'ont perçu comme une chanson lacrymale, triste, alors que c'est une chanson de joie, quoi. Avec le recul, beaucoup de gens sont venus, beaucoup d'hommes sont venus me parler, et beaucoup de femmes aussi, me parler de cette relation ratée avec leur père, justement, et que cette chanson les avait retournés. Que ça avait été une chanson importante pour eux. Et là, j'ai commencé à me dire, mais bon, c'est vrai que tout d'un coup, c'est pas mon histoire, c'est pas mon nombril, et que quand on écrit une chanson, on touche à l'universel, et que cette chanson, ce que j'ai vécu, des tas de petits garçons l'ont vécu, des tas de petites filles l'ont vécu, c'est l'histoire de tout le monde finalement. Et donc du coup, ça y est, voilà, maintenant, tout va bien avec cette chanson.
Mais cette rencontre, qui n'a pas eu lieu en fait, mais que voilà, elle a été précédée par une vraie rencontre. Votre sœur voulait absolument le revoir et vous êtes allé le voir chez lui, dans sa vie nouvelle, avec sa nouvelle femme et ses nouveaux enfants.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai oublié. La mémoire se ferme de temps en temps. Il nous avait passé pour des cousins. Donc c'était un deuxième rejet d'une certaine manière. Je comprends qu'il ait voulu protéger ses enfants, mais pour nous c'était difficile. Et là j'ai plus voulu jamais le revoir, mais je me devais d'accompagner ma sœur pour qui c'était important de provoquer cette rencontre. Moi j'y tenais pas particulièrement, j'y suis allé pour elle, mais je me suis dit je le verrai plus jamais. Et je crois qu'il m'a écrit, je me souviens plus, vraiment j'ai des amnésies volontaires là-dessus. Je crois qu'il m'a écrit plusieurs fois, je ne sais pas si je lui ai répondu. C'est bizarre, hein? Je ne sais pas si j'ai répondu. Unrequited love's a bore. And I've got it pretty bad. But for someone you adore, it's a pleasure to be sad. Like a string, baby lamb, with no mommy and no papi.
I'm so unhappy. But oh, oh, so glad.
Je pense que quand on commence à écrire, quand on est jeune et jeune homme et même jeune vieil homme, on écrit sur ce qui nous taraude, sur les choses qu'on arrive, qui nous frustrent en fait, dans les relations avec les autres, dans ce qui ne s'est pas passé avec les premiers êtres de votre vie, à savoir les parents, les amis, et puis les amours. Donc c'est vraiment l'écriture, les voyages aussi, les endroits. C'est vraiment les choses dont j'ai parlé dans tous mes albums, jusqu'à l'invitation. Et le jour où j'ai écrit Boulevard des Capucines, ça a été fini, quoi, vraiment.
Les médias francophones publics vous ont proposé Dao, fan de pop. Une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramzaouer. Attaché de production, Cécile Claire. Narration, Christelle André.
La qui fait battre mes veines.
Prochain épisode, nous verrons comment Étienne Dao est devenu organisateur de concerts en 78 à Rennes, dans le seul but de voir sur scène son groupe fétiche, les Stinky Toys.
Et je suis vraiment devenu dingue de leur musique. Avec mes premières économies, j'ai acheté leur album que je trimballais partout.
J'ai bien aimé après Jacques Nou, mais les Sticky Toys, ça ne me parlait pas du tout.
Jean-Christophe Éluard, ami de jeunesse d'Étienne Daho.
Il faut dire qu'ils nous emmerdaient, ils nous fatiguaient, mais il n'y avait plus que ça.
Il était un petit peu ébloui.
Jean-Éric Perrin, à l'époque, journaliste à Rock et Folk.
Par l'aura de musiciens parisiens qui avaient déjà fait un disque, qui avait une certaine notoriété. Bon, il y a tout ce fameux parcours des Stinky Toys, qui avaient joué au fameux festival punk au One World Club, à la même affiche que le Clash, les Sex Pistols, etc. Donc voilà, il y avait une espèce d'aura comme ça autour de ce groupe. Et puis lui a été vraiment archi fan, comme tout le monde, il était amoureux des Limes et des Roses.
J'avais été voir Marquis de Sade aux Roses Bonbons à Paris.
Richard Dumas, photographe.
Au début des années 80, je crois. Et puis elle y était là, elle dansait sur la piste, elle était comme une poupée magnifique, presque intouchable, comme ça, une beauté incroyable. Et à Rennes, on était vraiment tous fascinés par les Stinky Toys.
Daddy, Étienne Daho, en duo avec Élie Médéros. Élie Médéros fera partie des invités du prochain épisode.
Entre vous et moi, c'est difficile d'être deux, car pour être à deux, faut être à droite. D'être à toi, entre vous et moi, vous et moi. D'être à vous, car pour être à vous.